Un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait à lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. C'est un passage très fort. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et alors, il s'adresse à Jésus comme un rabbin, hein, donc comme maître, le scribe à l'époque. Donc, quand on s'adressait au scribe, c'est parce que c'est lui qui avait la loi. Hein. Donc, aujourd'hui, tout le monde, en fait, en général, normalement, tout le monde sait lire et écrire. Mais autrefois, donc, c'était le privilège de quelques-uns, et en particulier les scribes qui détenaient la loi, qui pouvait non seulement lire et écrire, mais aussi interpréter la loi. Alors, cette personne, en s'adressant à Jésus, si cette personne s'est adressée à Jésus, c'était en principe, hein, je dis en principe, c'était un marque de respect et aussi une marque de confiance. Donc, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une certaine situation. Maître, hein, il a bien dit, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? On peut dire que la réponse de Jésus a été brutale, en quelque sorte. Alors, pour quelle raison est-ce que on peut dire la réponse de Jésus a été si sèche vis-à-vis de cet homme qui lui manifestait du respect et de la confiance? Est-ce que Jésus ne considère, est-ce qu'il considère les choses matérielles comme pas importantes? Pas du tout. Verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et de là, Jésus va donner une parabole pour expliquer le fond de sa pensée. Et là, la parabole que Jésus va donner va expliquer ce qu'il dit ici au verset 15, car la vie d'un homme, gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Si vous deviez aborder quelqu'un aujourd'hui qui est sans argent, sans le sou, d'après vous, qu'est-ce qu'il dirait de lui-même? Il dirait, je ne suis rien. C'est ce qu'il dirait, je ne suis rien. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de bien matériel se dévalorise. C'est la pensée habituelle. Mais Jésus dit, ici, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il faut savoir que chacun de nous, on a une valeur importante aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, il est mort pour chacun. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, ça veut dire cela inclut tout le monde, hein, afin que quiconque, jeune, vieux, riche, pauvre, etc. Parce que pour Dieu, chacun de nous a une très grande valeur. Et donc Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance, c'est pas la quantité de tes biens qui va te donner une plus-value. Hein, c'est pas plus tu as de biens, ça veut dire que plus tu es considéré aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, tu es le plus considéré. Mais ce n'est pas ça qui change les choses aux yeux de Dieu. Et alors Jésus va expliquer. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Là, on peut dire, aux yeux du monde, c'est un homme qui a du succès. Hein? Donc, c'est un homme important. Un homme bien vu par la société. C'est l'homme qui a réussi. Parce que ses terres ont beaucoup rapporté. Il a réussi aux yeux de la société. Et pourtant, Jésus va dire de lui que c'est un insensé. Pour le monde, c'est un homme intelligent parce qu'il est parvenu à faire, à donner un rendement extraordinaire à cette terre, au point que cet homme, ses réserves étaient trop pleines et qu'il voulait bâtir de nouveaux greniers. Il dit, verset 17, et il raisonnait en lui-même, que ferai-je? Et là, on va écouter un récital de jeux de mots, mains, etc. Et tout est concentré sur l'ego de cet homme. Et il raisonnait à lui-même, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour ma récolte. Voici, dit-il, je ferai, j'abattrai mes greniers. Et j'en bâtirai de plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Quel est le problème de cet homme? Est-ce que ça se reposait? Non. Dieu lui-même, il a institué le sabbat. Et a dit, vous travaillerez 6 jours et le 7e jour, vous vous reposerez. Mange! Est-ce que Jésus est contre le fait de manger? C'est lui-même qui a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses avant même de créer l'homme et la femme. Hein, il a créé les plantes. Bois et réjouis-toi. Est-ce que Jésus est contre la réjouissance? Pas du tout. Où est-ce que Jésus a fait son premier miracle? À un mariage. Et qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? Je suis sûr que tous les grands buveurs savent que Jésus, son premier miracle, il a changé l'eau en vin. Quand j'étais à l'armée du salut, j'ai rencontré des hommes qui ne connaissaient rien de la Bible, mais ce passage, je connaissais. Ils disaient, ah, le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. Et donc, Jésus n'était pas contre la nourriture, il n'était pas contre le fait de se réjouir. D'ailleurs, nous disait-on pas de lui qu'il était un mangeur, un buveur, alors que Jean-Baptiste, c'était un ascète. Hein? Jean-Baptiste passait son temps à jeûner, etc. Et Jésus, lui, ne jeûnait pas. On lui reproche, on disait, mais toi et tes disciples, vous ne jeûnez jamais. Mais Jésus disait, le temps viendra où ils devront jeûner. Donc Jésus n'est pas contre le fait de se reposer. Il n'est pas contre le fait de manger. C'est lui qui a créé la nourriture, il n'est pas contre le fait de boire et de se réjouir. D'ailleurs, l'invitation au royaume, c'est une invitation au festin. Et la sainte scène que nous venons de prendre, c'est un symbole d'un festin. Donc, c'est pas de cela que Jésus parle. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le problème de cet homme, c'est qu'il amasse juste pour amasser. Donc, il ne pense que qu'à l'aspect matériel des choses. Pour lui, la vie ne se résume qu'au matériel. Il ne pense qu'au matériel. Dieu est loin de sa pensée. Et on peut voir aussi que c'est un homme qui est, non seulement il ne pense pas à Dieu, mais il ne pense pas non plus aux autres. Alors il dit, que ferai-je? Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour ma récolte, et voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Alors, quand il dit j'abattrai mes greniers, est-ce que c'est lui qui va abattre ses greniers? Non, hein. Il y a des hommes qui vont le faire. Quand il dit j'en bâtirai de plus grands, est-ce que c'est lui qui va vraiment les bâtir? Quand il dit j'y amasserai toute ma récolte, pensez-vous que cet homme va aller au champ pour vraiment, hein, amasser la récolte? Voilà le problème de cet homme, c'est que tout est centré sur lui. Il dit, je ferai, je ceci, je cela, quand il ne pense pas vraiment aux autres. Et il dit, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et donc, il ne pense qu'à accumuler, il ne pense qu'à lui-même. Et il dit, verset 19, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il ne pense qu'à accumuler et il dit, voilà, j'accumule. Et lorsque nous lisons un peu plus loin, verset 23, Jésus dit ceci. En fait, on peut même lire à partir du verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Pourquoi est-ce que les gens veulent accumuler? C'est parce qu'ils ont un problème d'identité. Ils pensent que pour qu'ils soient quelqu'un, il faut qu'ils aient une montagne de biens matériels. Pour qu'ils soient sécures, ils pensent qu'il faut qu'ils aient une quantité de biens matériels. Mais qui est-ce qui nous donne notre vraie valeur? C'est le Seigneur Jésus. Notre vraie valeur vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre sécurité vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est en Christ, eh bien, c'est celui-là qui est en sécurité. Qu'est-il écrit dans Romains? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, donc, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas faire comme cet homme pensant que si j'ai quantité de biens matériels, donc je suis quelqu'un, et si j'ai quantité de biens matériels, donc je suis en sécurité. Et le problème de cet homme, c'est que il n'a pas considéré Dieu du tout dans ses réflexions. Et quelqu'un a dit, celui qui compte sans prendre Dieu en compte, eh bien, ne sait pas compter. Jésus dit, verset 23, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ici, Jésus établit déjà que nous avons beaucoup plus de valeur que les oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Encore une fois, ici, Jésus n'invite pas à la paresse, disant, ok, il ne faut pas, il ne faut pas semer ni moissonner, et que donc tout va venir comme sur des roulettes. Paul disait, celui qui ne travaille pas, ne doit pas manger. Donc ici, le point, c'est que Jésus dit, il ne faut pas s'inquiéter au sujet des choses matérielles, mais qu'il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Verset 28, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc Jésus dit, Dieu sait que vous en avez besoin. Il n'est pas contre le matériel. Hein? Dieu n'enseigne pas comme ceux-là qui disent, bon, qu'il ne faut pas manger du tout, etc. Non. Votre Père sait que vous en avez besoin. Verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'il a dit toutes ces choses n'existent pas? Non, il ne dit pas que toutes ces choses n'existent. Mais toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, rappelez-vous, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, qu'est-ce que Jésus leur a dit dans quelle est l'une des formules de la prière? Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions amasser tout en ignorant notre frère et notre sœur ou nos frères et sœurs au point de les mépriser. Et puis de dire qu'on est supérieur à eux parce qu'on a accumulé des richesses. Mais Jésus ici dit, ta valeur ne dépend pas de tes biens. Et ensuite, ce que Jésus est en train de dire à cet homme, c'est que tu vois cet homme, il n'a considéré que lui-même, il n'a pas considéré les autres et il n'a pas considéré Dieu non plus. Pour lui, ce qui compte en premier lieu, c'est le matériel. Mais Jésus dit au verset 31, cherchez plutôt le royaume. Dans Matthieu, il a dit, c'est exprimé un peu différemment, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? C'est que nous devons d'abord mettre Dieu en premier dans notre vie. Mettez Dieu d'abord dans votre vie. Et Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin et lui-même pourvoira, comme il est écrit dans Éphésiens, je ne sais pas si quelqu'un connaît bien ce passage, Éphésiens, il est dit, Dieu pourvoira selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Extraordinaire. Dieu pourvoira selon sa richesse. Imaginez la richesse de Dieu. Selon sa richesse. Hein? Si un homme pauvre te dit, il va te faire un cadeau, tu dis, ok, bon, c'est un petit cadeau. Mais si c'est un riche qui te dit, il va te faire un cadeau, là, tu t'attends à quelque chose de bien. Mais ben, parfois, on est déçu. Parfois, ce sont les plus pauvres qui font de plus beaux cadeaux. Mais bon, en tout cas, plus la personne est riche, donc plus il y a possibilité que tu reçoives un vrai beau cadeau. Alors, il a dit donc dans ce passage, donc que notre Dieu pourvoira selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, Jésus dit, d'abord, lorsque tu comptes, il faut d'abord considérer Dieu. D'abord, mets le Seigneur en premier. Et lorsque tu mets Dieu en premier, eh bien, Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Alors, verset 32. Toujours dans Luc 12. Il dit, ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La chose essentielle, c'est le royaume. D'abord le royaume. Et si tu es dans le royaume, eh bien, le Seigneur va te donner le reste aussi. Verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Quelqu'un a dit, tout ce que vous donnez, en fait, c'est ce que vous possédez. Verset 34, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Maintenant, on voit cet homme. Où est-ce qu'il a amassé? Il a amassé rien que pour la terre. Tandis que celui qui donne, eh bien, celui qui donne, eh bien, il ne perd pas. Parce que c'est un investissement dans le royaume de Dieu. C'est un investissement dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur veut que nous puissions mettre notre cœur, où ça? Dans le royaume. Dans le royaume. Et non pas sur la terre, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces biens-là, on va les perdre. Qu'est-ce qui est écrit dans, il est écrit dans 1 Timothée 6, verset 7. Timothée 6, verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Hein, quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on met sa maison, sa voiture dans la tombe? Non. Hein. Bon, c'est vrai que dans certaines tribus, quand certaines personnes meurent, on met de la nourriture pour le voyage. Ils ont parfois des idées bizarres. On met, et j'ai appris même que dans certaines tribus indiennes, en fait, d'Amérique, et parfois, si un chef mourait, on enterrait l'épouse aussi avec. Donc, c'était pénible, très dur. Hein. Donc, voilà. Donc, il ne fallait pas être l'épouse d'un chef. Bon, le fait est que, eh bien, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et c'est ce que Job avait compris. Lorsque Job avait été frappé, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, je rentrerai dans le sein de la terre. Donc, il est clair que nous n'avons rien apporté dans ce monde et donc nous ne pouvons rien emporter. Par contre, si nous investissons dans le royaume de Dieu, eh bien, ce que nous investissons restera. Amen. Ce que nous investissons restera. Et quand on pense à certaines personnes qui ont donné leur vie dans la mission et après eux, beaucoup d'âmes se sont converties, il y a des gens qui continuent à se convertir grâce au ministère de certains hommes de Dieu qui sont morts depuis longtemps. Mais les fruits demeurent. Les fruits demeurent. Et donc, le Seigneur nous invite à investir d'abord dans le royaume. Le Seigneur ne nous dit pas ici qu'il ne faut pas se reposer, mais Au contraire, c'est un ordre qu'il nous donne de nous reposer. Il ne nous dit pas qu'il ne faut pas manger. Il a créé la nourriture. Il ne nous dit pas qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas se réjouir. Le Seigneur est en train de préparer pour nous une fête. Mais nous devons savoir que notre vie, eh bien, ne se limite pas à seulement ici, ici-bas, mais qu'il y a aussi une vie au-delà. Et c'est pour cela que cet homme est appelé insensé. Il est appelé insensé parce qu'il ne considère que l'aspect matériel des choses. Hein? Les hommes, parce qu'ils veulent éviter Dieu, ils ont inventé la théorie de l'évolution. Disant que l'homme est sorti de la matière, d'une cellule, et c'est patati patata, etc., a évolué, etc. Mais le problème, il n'arrive pas à résoudre qui est-ce qui a créé la cellule. Hein? Ils disent que tout est apparu par accident, etc., mais tout a un but dans la vie. Ben, ce pupitre que quelqu'un a dû faire, ce n'est pas apparu tout d'un coup comme ça. Oh, il y a un micro, oh, il y a un pupitre, oh, il y a des baffes, là, hein? Ça apparaît comme ça, c'est l'évolution. Donc, en fait, bon. Ils veulent évacuer Dieu, mais on ne peut pas évacuer Dieu. Donc le problème de cet homme, Jésus l'a appelé insensé parce qu'il ne pensait qu'en termes matériels. Il n'a pas pensé à Dieu. Il n'a pas pensé à ses frères non plus. Il ne pensait qu'à lui. Il disait « je, moi ». Et sans doute, c'était quelqu'un qui payait mal ses ouvriers. Et qui ne pensait qu'à se construire des choses. Et il était fort en business, mais la réalité c'est qu'il n'avait, il avait une courte vue. Hein, il pouvait prévoir d'avoir de très bonnes récoltes, de très bons rendements, mais il ne pensait pas après la mort. Et il a tout bien fait, sauf qu'il a oublié Dieu. Sauf qu'il a oublié ses prochains. Et donc c'est pour ça que Dieu lui dit, insensé. Et dans un autre passage, Jésus dirait, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc ça veut dire quoi? La première chose, c'est d'assurer le salut de son âme. Et si ton âme donc est sauvée, à ce moment-là, les autres choses viendront. Donc le point de ce message, c'est que rappelle-toi que Dieu doit avoir la priorité dans ta vie. Dans Jacques, il est dit, à propos de ceux qui font des projets, ne dis pas demain je ferai ci, de ferai ça, mais de mettre de dire si Dieu veut, eh bien je ferai ceci. Je ferai cela. Ne dis pas je ferai ceci, je ferai cela. Mais dis si Dieu le veut. Et lorsqu'on lit Actes des Apôtres, lorsqu'on lit les épîtres de Paul, et plusieurs fois, lorsque Paul fait des projets, il dit Dieu voulant, j'irai vous voir à Rome. Dieu voulant, je ferai ceci, je ferai cela. C'est-à-dire Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si Dieu veut, eh bien, je ferai ceci, je ferai cela. Parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Et c'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est là où Dieu règne. Le royaume de Dieu, c'est ça, c'est là où Dieu est roi. Est-ce que Dieu est roi dans notre vie? Donc, l'invitation de Jésus, c'est que Dieu soit roi dans notre vie. Et si la volonté de Dieu est la première chose dans notre vie, eh bien Dieu nous accordera aussi notre volonté. Vous avez entendu? Donc si nous, la volonté de Dieu est en premier dans notre vie, il accordera aussi notre volonté. Parce qu'à un moment donné, à force de faire la volonté de Dieu, eh bien ta volonté sera en accord avec celle de Dieu. Et donc tu sauras ce qu'il faut faire, ou ce qu'il faut même demander. Je sais que je peux demander ce bic au Seigneur parce que je sais. Parce que il sait que c'est utile pour moi. Et là, donc, cherchons d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire soumettons-nous d'abord à sa volonté. Et alors, lorsque notre volonté et la sienne ne font plus qu'une, à ce moment-là, ce sera très simple. Lorsque nous aurons des désirs, eh bien, ce sera plus simple. Mais si nous sommes éloignés de Dieu, alors là, c'est très difficile. Parce que là, nous allons avoir des désirs opposés. C'est ce que Paul dit dans Galates. L'esprit a des désirs contraires à la chair. La chair veut une chose, mais l'esprit veut autre chose. Galates chapitre 5. Lorsque nous vivons selon l'esprit, c'est-à-dire lorsque nous avons l'esprit de Dieu en nous, nous avons la pensée de Dieu. Mais lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu, eh bien nous n'avons pas la pensée de Dieu. Donc Dieu pense une chose et nous pensons une chose. Et alors donc nous allons en sens opposé. Et alors ça ne va pas. Et donc dans Jacques il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire vos propres passions. Mais lorsque nous sommes en communion avec Dieu, eh bien nos désirs sont accordés, sont en harmonie, et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur répond à nos prières. Donc, cherchons d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, le Seigneur n'est pas contre le repos, il n'est pas contre le manger, le boire, il n'est pas contre la réjouissance, mais avant toute chose, il faut se dire, est-ce que cela plaît au Seigneur? Est-ce que cela est conforme à la volonté du Seigneur? Eh bien, si tu fais cela, tu n'es pas un insensé. Tu es un homme intelligent, une femme intelligente. Tu es un homme sage, tu es une femme sage, parce que tu prends Dieu en compte. Ici, l'homme est insensé parce qu'il ne prend pas Dieu en compte. Il ne prend que lui-même en compte et il ne prend que en compte que l'aspect matériel des choses. Dieu veut que nous sachions que, eh bien, nous ne sommes pas que chair, nous ne sommes pas que corps, mais nous sommes aussi esprit. Nous sommes aussi esprit. Et donc, nous devons aussi nourrir l'esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort. Et donc ici, l'homme, là, en question, il ne vivait que de pain. C'était ça son problème. C'est pourquoi il est insensé. Il ne vivait que de pain seulement. Il ne vivait pas de la parole de Dieu. Mais s'il vivait de la parole de Dieu, eh bien, il aurait été un homme intelligent. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être intelligents, à le mettre en premier dans notre vie, à chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire à chercher la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Chaque jour que nous nous levons le matin, Seigneur, quelle est ta volonté? Chaque décision que nous prenons, Seigneur, quelle est ta volonté? Et lorsque nous faisons cela, nous serons des hommes et des femmes intelligents en qui le Seigneur prend plaisir. Vous vous rappelez, parce que Jésus faisait la volonté de son Père, il disait, voici le Fils en qui je prends plaisir. Amen. Donc nous voulons aujourd'hui être des fils et des filles en qui le Seigneur prend plaisir. Voici le Fils ou la fille qui réjouit mon cœur. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être des insensés? Ou bien être des fils et des filles en qui le Seigneur prend plaisir? Et de dire, voici le fils et la fille qui réjouit mon cœur. Comme Jésus, qui marchait toujours selon la volonté de son Père. Comme Jésus, qui cherchait d'abord le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, toutes les autres choses vont se mettre en place. Et ne nous inquiétons pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et parce que Dieu aussi, il connaît nos besoins. Il sait que nous avons besoin de ces choses. Il ne dit pas, non, c'est mauvais. Non. Il y a des gens au Moyen-Âge qui maltraitaient leur corps, qui se flagellaient parce qu'ils disaient le corps est mauvais. Mais ça vient de la philosophie grecque qui disait que la matière est mauvaise et qu'on ne devait vivre que de l'esprit. Mais c'est le Seigneur qui a créé notre corps. Hein? La Bible nous dit qu'il faut bien se soigner. Il faut soigner son corps parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc cette doctrine qui dit il faut se martyriser, se flageller, etc. Non, c'est pas biblique. Bien sûr, nous acceptons les souffrances dans notre corps, dans notre chair, pour la cause de Christ. Mais c'est pas des souffrances que nous infligeons nous-mêmes. Nous acceptons ces choses-là qui viennent de l'extérieur pour la cause de Christ. Mais nous ne nous imposons pas nous-mêmes ces souffrances. Nous acceptons de ne pas manger parce que certaines conditions font que, comme Paul disait, il voyageait, il a connu la faim, la soif, etc. Ce sont des choses nous acceptons ces choses pour la cause de Christ, mais nous ne nous martyrisons pas. Hein? C'est pas ça l'Évangile. Donc, mais ce que nous voulons, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. Amen. Chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire, Seigneur, que ton règne vienne dans mon cœur, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans ma vie. Nous prions que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, que la volonté de Dieu soit faite dans l'Église, que la volonté de Dieu soit faite dans cette région, que la volonté de Dieu soit faite dans ce pays de la Belgique. C'est ça. Jésus dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Donc que Dieu règne aussi dans mon cœur, au milieu de nous. Et là nous serons intelligents, nous serons des fils et des filles selon le cœur de Dieu. Prions le Seigneur.